en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. 3 étoiles au guide Michelin, 5 toques d'or au sein de l'académie Goemio, 4 maisons, une à Las Vegas aux États-Unis, les 3 autres à Paris, parmi lesquelles le restaurant du Quai de Conti, installé au sein de la Monnaie de Paris, juste en face du Palais du Louvre, qui a été nommé meilleur restaurant du monde. Guy Savoie porte haut le gonfalon de la gastronomie française. Il faut dire que cet Isérois, passé chez Trois Gros à Roanne, puis chez Lasserre à Paris, a décidé très tôt de devenir cuisinier et qu'il a depuis trouvé le geste et la manière d'accommoder les produits du terroir les plus simples pour en tirer le meilleur. Le geste et la manière, c'est le titre du livre qu'il publie aux éditions du Cherche Midi, mais il en publie aussi un autre qu'il co-signe avec son adjoint Alexis Voisenet et avec l'autrice et documentariste Anne Martinetti qui l'accompagne aujourd'hui en studio. Guy Savoie cuisine les écrivains du XVIe siècle et paru aux éditions Herscher, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Anne Martinetti.
Bonjour.
Bonjour Guy Savoie.
Bonjour.
Au mur de votre navire amiral, je l'ai évoqué, celui du Quai de Conti, il y a cette phrase, Guy Savoie: la cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. C'est donc votre devise. Et en fait, l'idée de cette série de livres qui commence donc aujourd'hui aux éditions Herscher, c'est un peu ça, quoi. C'est faire le lien entre l'histoire avec un grand H et la cuisine avec la littérature en guise de sauce.
Absolument. Oui, pour revenir à cette définition de la cuisine. En fait, je voulais mettre en opposition le côté instantané de la cuisine. Qu'est-ce qui est cette transformation magique? Elle repose sur des produits, en fait, qui ont tous une longue histoire. L'histoire de leur variété, de leur espèce, de leur race, et après, l'histoire de chaque individu. La carotte, elle a sa propre histoire. Bien sûr, l'histoire de sa variété, mais elle a échappé à plein de choses. Alors, lorsque tous ces produits sont chez nous, ben c'est instantanément qu'on les transforme. C'est-à-dire qu'on les fait passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, et juste de l'autre côté de la cloison, les convives vont le déguster, donc l'ingérer. Vous imaginez la confiance.
Alors le plaisir, Anne Martinetti, on a l'impression qu'il est présent dans chacune des pages de votre livre, aussi bien dans les mots, dans les textes, que dans les illustrations. Il y a de très nombreuses illustrations au XVIe siècle, et singulièrement lorsqu'il s'agit de mettre à sa table, de mettre parmi les convives, justement, pour reprendre un mot que Guy Savoie, je sais, apprécie beaucoup, à la fois des écrivains, mais aussi des princes, des rois, des hommes de pouvoir. Le plaisir est vraiment un ferment.
Alors c'est vrai, lorsqu'on a la chance de collaborer avec Guy Savoie, on se place tout de suite sous les auspices de la gourmandise et du plaisir. Et c'est vrai qu'on a sélectionné ces auteurs aussi sous ce prisme-là. On a sélectionné des auteurs qui sont des femmes et des hommes d'action, des personnes qui sont elles aussi dans l'instantanéité, dans la gourmandise. Louise Labbé, par exemple, faisait elle-même ses confitures. Et surtout, leur gourmandise et leur personnalité ont traversé les siècles, aussi par le biais de ce qu'ils aimaient manger et du contenu de leur assiette.
Alors comment est-ce que vous avez procédé justement tous les deux pour confectionner cet ouvrage dans lequel on croise Louise Labbé, mais aussi Montaigne, Rabelais et des écrivains peut-être un peu moins grand public, un peu moins connus, mais qui ont compté pour leur époque?
Alors, bon, c'est très simple. Vous savez que moi, ma culture littéraire est très, très simple, même simplissime. Je m'intéresse à plein de choses, et il se trouve que la littérature, ça a toujours été quelque chose pour moi d'un peu plus lointain. Et grâce à Anne, en fait, je m'aperçois qu'elle m'a fait rentrer dans le monde de la littérature avec évidemment des choses qui me touchent, moi, le cuisinier. Donc, c'est par la lorgnette de la, des textes autour de la cuisine, ou des produits, ou des choses qui se passent à table ou dans la cuisine. Et en fait, je me suis aperçu que la littérature, et je vais pas employer un terme très littéraire, je vais dire que la littérature, c'est vachement sympa, quoi.
Alors c'est vachement sympa. Alors Anne Martinetti, c'est vrai que vous nous emmenez tous les deux par la main et par la langue. Alors à la fois la langue française et puis la langue du palais, évidemment, la langue qui nous permet de goûter tous ces bons plats dans les plus grands festins, à la table des rois et des écrivains. Souvent, et d'ailleurs, ils partageaient la même. D'ailleurs, on a un peu l'impression que les écrivains que vous avez choisis sont aussi des hommes de pouvoir et d'affluence.
Sont parfois effectivement des hommes de pouvoir, mais souvent des hommes de cuisine au sens diplomatique du terme, comme Philippe de Comines, qui a écrit dans ses mémoires un petit peu l'art de gouverner et de confectionner justement cette cuisine diplomatique. C'est lui l'inventeur de la diplogastronomie, hein, qui a fait école, ou bien Clément Marot, qui était également secrétaire et qui était domestique du roi. Et quand on était domestique du roi, à l'époque, on organisait aussi ses repas. Et ça, c'était donc, il y avait également le choix des producteurs, le choix des menus. Et c'est vrai que ces écrivains que nous avons choisis, lorsqu'ils participent à la vie de la cour, ils sont aussi des économes comme on est économe d'un établissement, c'est-à-dire
qu'on va choisir... On ne parle pas de l'outil de cuisine.
Mais on pourrait... on a aussi choisi des personnes qui ont joué un rôle dans leur région. Et ça, c'était important pour nous aussi de faire un tour de France de la gastronomie du XVIe siècle, qui a encore des ramifications aujourd'hui.
Oui, parce que le terroir, évidemment, reste très important dans la gastronomie française aujourd'hui. Et c'est vrai que vous nous emmenez justement sur les marchés de l'époque, dans les jardins, dans les potagers. Et je pense que c'est important, effectivement, mais vous l'avez fait de vous-même, Guy Savoy, de commencer par évoquer justement le produit. Parce que dans l'autre livre que vous publiez, donc « Le geste et la manière » aux éditions du Cherche-Midi, vous nous rappelez vos plaisirs d'enfance à vous, des plaisirs finalement extrêmement simples, quoi. Vous racontez la cueillette des morilles au printemps avec votre père. Oui. Votre père qui vous mettait toujours une petite pomme dans votre cartable.
Le matin, oui, il préparait le petit déjeuner. Après, j'ai un frère, une sœur, et à tous les trois, il mettait dans notre cartable une pomme pour la récréation. Voilà. Et donc, dans la première partie de la matinée, moi, je pensais à cette pomme. Et puis après la récréation, je pensais au déjeuner qu'avait préparé ma maman. Mais cette pomme, ça avait quelque chose de... cet intermède gourmand m'aidait beaucoup, en fait. Mes journées étaient ponctuées, en fait, de ces menus, sans jeu de mots, plaisir. Et que, voilà, et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que c'était, moi, ce qui me procurait, bien évidemment, le plus de plaisir. Et ce qui m'interpellait le plus, même au quotidien, c'était de savoir, quoi, d'avoir en permanence en tête ces objectifs de gourmandise.
Alors parfois vous accompagnez aussi votre maman qui allait acheter des poulets vivants sur le marché de Bourgoin-Jallieu ou des truites à Saint-Savin. Vous êtes voilà, donc un enfant de l'Isère, hein, du nord de l'Isère. Est-ce que vous êtes l'enfant de ce qu'on pourrait appeler une cuisine authentique? Est-ce que le mot authentique est un mot qui vous convient?
Oui, moi le mot authentique me convient parfaitement. Mais vous savez, j'ai eu la chance d'avoir un papa jardinier, une maman très bonne cuisinière. Donc je veux dire, j'étais en complète immersion dans la production, je dirais, avec tous ces soucis, tous ces aléas de météo, de je ne sais quel un renard pouvait manger les poulets, enfin des vers blancs pouvaient s'attaquer aux carottes. Bon, tout ça, j'ai pris conscience très très vite que c'était pas aussi évident que ça d'avoir des carottes dans la cuisine à préparer. Donc très jeune, j'ai été vraiment sensibilisé à tout ce travail qui en amont. Quand je dis des produits chargés d'histoire, ils sont vraiment chargés d'histoire. Et lorsqu'ils arrivent dans la cuisine, normalement, il ne doit leur arriver que du bon.
Alors la cuisine, elle est très simple. Dans le resto de votre maman, on mangeait des omelettes, du coq au vin, de la truite, j'en ai parlé, des truites meunières. Et puis un jour, vous remplacez votre maman au restaurant et il y a un chocolatier qui passe par là, il s'appelle Louis Marchand. Absolument. C'est lui qui vous a un peu mis le pied à l'étrier, vous avez le petit coup de pouce nécessaire.
Absolument, bon, parce que je disais bien sûr que je voulais être cuisinier. Et pendant ces grandes vacances là, où j'avais 15 ans et que j'étais obligé de remplacer au pied levé ma maman, qui était assez gravement malade. Et donc, pendant ces deux mois d'été, j'ai essayé, j'y suis un peu arrivé, de faire tourner ce restaurant. Et ce qui a suscité la curiosité de Louis Marchand, pâtissier, qui était aussi ami de mes parents, qui était très surpris que je puisse prendre en main cette cuisine et que je puisse faire tourner le restaurant. Et là, bon, il a décidé de me mettre en relation avec les frères Trois Gros pour faire un vrai apprentissage chez des très grands professionnels. Ouais,
voilà. Excusez du peu, effectivement, oui, les Trois Gros, rois de Roanne, et peut-être un petit peu plus d'ailleurs, c'est chez eux, et singulièrement je crois avec Jean Trois Gros, que vous avez appris ce fameux geste qui est au cœur de votre métier.
Avec les deux, là, j'avais la chance d'avoir deux immenses cuisiniers dans la cuisine. C'est comme si on avait eu dans la même cuisine Alain Chapelle et Paul Bocuse. Moi j'avais Jean Trois Gros et Pierre Trois Gros, et quand vous travaillez 3 ans à leur côté ou en face d'eux très souvent, parce que c'était un fourneau où on travaillait sur deux faces, et quand vous aviez en permanence les gestes de l'un ou de l'autre en face de vous, c'est évident que vous aviez, eh bien, vous preniez des bonnes ondes, quoi, et en tout cas des bonnes habitudes.
Est-ce qu'il y a un geste, justement, que vous avez appris avec les frères Trois Gros, que vous avez tout de suite en mémoire, comme ça, un geste que vous reproduisez peut-être régulièrement aujourd'hui?
La précision du geste, le premier geste qui m'a fasciné, vous savez, dans les cuisines, il y a ce qu'on appelle les barres à dents, et vous avez les casseroles en cuivre qui sont accrochées. Oui. Et je me souviendrai toujours ce décrochage de cette casserole, hein, d'une main, l'autre main prenait le manche de la casserole, cette casserole atterrissait, mais je dis bien atterrissait, tout doucement sur le fourneau, c'est-à-dire pas un bruit, c'était un son, le son sourd du cuivre sur la fonte du fourneau, et pendant que cette casserole chauffait, ils assaisonnaient soit le bœuf, soit une pièce de viande, soit le saumon, soit, et je suis sûr qu'à ce moment-là on aurait pris un microscope, on se serait aperçu que les grains de sel étaient parfaitement équidistants, tellement le geste était beau et efficace, et tout ça sans jamais de brusquerie, c'était au rythme d'un ballet, quoi. Donc c'est vrai que lorsque vous avez ce ballet en permanence devant vos yeux, vous intégrez forcément les bons gestes.
Alors, en épigraphe du livre, vous avez choisi une phrase du philosophe grec Anaxagore. L'homme est intelligent parce qu'il a une main. Ouais. Donc cette intelligence de la main, on est bien d'accord, elle est pas innée, elle s'apprend. Vous êtes d'ailleurs un grand promoteur de l'apprentissage, de la transmission.
Oui, je suis un grand promoteur de l'apprentissage parce que je considère que un grand nombre de jeunes, aujourd'hui on s'en rend bien compte avec ceux qui décident de changer de voie à 25 ou 30 ans. Et puis je vois dans nos jeunes stagiaires, vous savez, en troisième, ils font une semaine de stage chez nous, et je m'aperçois que ce qui leur manque le plus dans leur monde de la scolarité, c'est le concret. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, le fait qu'on puisse ne serait-ce que toucher tous les produits, les évaluer, je veux dire, enfin, ils nous voient bien, moi, quand les barres arrivent, on touche le ventre, savoir s'il est mou, tout ça. Et puis après qu'on va les cuisiner, et qu'en plus, geste ultime, on va les ingérer, donc les déguster, mais on voit bien qu'ils sont émerveillés.
Les fruits de mon verger sont dorés et bien mûrs. Ainsi donc j'ai dressé la table ce jour-d'hui. Convive, en ton honneur j'ai mis mes dons au fur. S'il advient que mon goût blesse ton appétit, dis-toi bien qu'entre nous le miel vaut bien le sel, et que l'amour toujours vaut un chagrin d'ennui. Pas un seul marmiton qui ne soit du missel mien le fidèle apôtre, et pas un seul mirage qui ne soit mon charme. Je goûte tous les ciels. Tu trouveras des anges épicés de rage et des culs singuliers. Tu en boiras de pire, puis des maigres vieillards nous mangeront l'outrage. Bref, je parie ce jour que mon hostie, la hire de ta faim, t'engrossera bien mieux qu'un 50e top. On pourra me relire. La misère chez moi est un banquet des dieux. On y déguste là d'atroces vérités. Un vin aphrodisiaque et l'ambroisie des cieux. Je jure que ma main a souvent hésité. Les parfums sont divers. Les femmes chaque jour en sont mélancoliques. Ah, fidélisée. Seigneur, qu'il a fallu de poésie, d'atour, depuis notre Lucie, pour pétrir ce talent. Répétez, répétez, chaque jour. Et je te prouverai que d'un simple hareng, on peut faire un marché. Je me souviens des nuits que je n'ai pas dormi. Je me souviens du temps où l'on me disait « Tiens, bois donc l'eau de ce puits. » Et tout au fond du seau, je trouvais de la vase. J'ai bu, mauvaise guerre, toute l'eau du puits. Et ce jour d'aujourd'hui, tu ne regretteras rien, pas même l'oubli. Tu te croyais seigneur, chez moi, tu seras roi. Pas de carte, un contrat. La fille sera large et sa poitrine haute. Je sais depuis longtemps tes goûts, ah, le bonheur. Les plaisirs défendus, ils sont dedans ma hôte. Cours, viens, va chez ton père et dis-lui ce jour-d'hui. Dis-lui bien que c'est moi, je suis connu partout. Et casse-lui les reins s'il craint ton appétit. Sous l'olivier pardi, la nappe sera blanche. Il y fait déjà chaud, c'est midi. Cours, viens, on va pleurer, se suspendre à sa branche. Je vois déjà venir des avrils table rase, l'âne portant le bas, l'Italie en costume, et grand-père Bruno dans une ultime stase. Le verbe vient chez moi, c'est ainsi la coutume, et foutre Dieu, le drame y trouvera sa part. Je veux du vent quand même, au bateau sous l'écume, la rime est là, trop belle, en parure de star. Paola, ma chérie, ma fine, ma jolie, ils te vendront des clous, tu veux des sous, connard? Approchez, bonnes gens, voilà du vin d'Asti et des melons dorés. Les musiciens musiciens sont là. Venez sur ma colline, approchez, c'est midi. À table, il y aura des mots rares, l'éclat, des brochettes de fruits, des pianos endragés. Il y aura même ce que l'on enterra dans l'autre vie. Tu vois, je n'ai rien négligé. Pour autant qu'on vive, je ne vends pas de rêve. Ces agapes sont là, le doigt dans la pensée. Je t'offre le repas. Le repas qui ne grève jamais un appétit. On le quitte, la faim au ventre pour longtemps. On demande une trêve, on supplie, mais jamais, jamais elle ne vient. Chez moi, tout est gratuit. On ne vend pas le faux. Crois-moi, je suis un faux, un très grand magicien. Cours, viens, va chez ton père et dis-lui ce jour-lui. Dis-lui bien que c'est moi, je suis connu partout. Et casse-lui les reins s'il craint ton appétit. Sous l'olivier pardi, la nappe sera blanche. Il y fait déjà chaud, c'est midi. Cours, viens, on va pleurer, se suspendre à sa branche. Allez, cours, viens, cours.
Le banquet, Gérard Salloni sur RFI dans VMDN avec Guy Savoie, 3 étoiles au Michelin et Anne Martinetti qui viennent nous présenter un ouvrage en texte, en recette, en illustration publié aux éditions Herscher avec Alexis Voisenet qui est l'adjoint de Guy Savoie au restaurant du Quai de Conti. Titre, Guy Savoie cuisine les écrivains. Le premier tome est donc consacré à Anne Martinetti au 16e siècle, une époque qui a vu d'ailleurs l'apparition de nouveaux aliments en fait. Hein. On bénéficie un petit peu des découvertes des grands explorateurs qui sont allés explorer les autres continents et qui ramène tout cela en Europe.
Tout à fait. Alors, le plus connu, évidemment, des écrivains qui ont souligné cet apport des aliments nouveaux, c'est Montaigne, puisque énormément de cargaisons arrivaient d'Orient au port de Bordeaux et qu'il en a été maire. Donc, c'est lui qui était un petit peu voilà, le témoin de ces arrivées d'épices. Et Guy Savoie et Alexis Voisenet ont imaginé une pastillade faisant aux épices d'Orient pour illustrer cet appétit de Montaigne pour l'Orient.
Alors, il y a des illustrations, justement. Pour le coup, il y en a beaucoup parce que les peintres aussi peignent beaucoup de repas, de banquets, mais aussi de victuailles à travers les natures mortes à cette époque-là. Et ces illustrations ponctuent effectivement ce voyage dans le temps que vous nous proposez dans le livre. Alors moi, j'ai fait mon choix parmi les plats que vous nous proposez, évidemment. Et en guise d'entrée, on va faire les choses dans l'ordre, hein, Guy Savoie, j'ai jeté mon dévolu sur une soupe de topinambour à la truffe. Alors je crois que c'est bientôt la saison de la truffe du Périgord.
Je pense que fin décembre, on aura la truffe noire. Pour l'instant, c'est encore la truffe blanche du nord de l'Italie, d'Alba. Et la noire va démarrer, oui, fin décembre.
Donc on commence donc léger et gourmand avec cette soupe de topinambour et la truffe.
Ah oui. Alors, les topinambours, vous les cuisez dans un bouillon, plutôt les cuire dans un bouillon de légumes ou même vous pouvez les cuire à l'eau. Et puis, ensuite, vous faites avec les épluchures de truffe, vous faites un petit jus de truffe qui va vous permettre de rehausser déjà le fond de la soupe. Et après, n'hésitez pas à mettre de la truffe hachée ou des lames de truffe. Et puis, vous avez ça, vous servez ça avec du pain grillé et vous allez vous régaler.
Alors cette recette, elle
cette
en
soupe,
plus. Alors,
vous l'associez à Brantôme, je crois.
Cette recette, en plus, a un accent un peu coquin, puisque elle est issue des dames galantes de Brantôme.
Voilà, Brantôme, écrivain, militaire, mais aussi abbé. Hein, donc, on peut encore visiter aujourd'hui, d'ailleurs, l'abbaye Saint-Pierre de Brantôme, en Périgord, justement, le pays de la truffe.
Le pays de la truffe.
Voilà, donc dans le sud-ouest de la France. Il y avait installé un potager, vous le racontez, ça, d'ailleurs, dans le livre Anne Martinetti, un jardin de légumes plus que respectable. Et vous racontez aussi que pour sauver l'abbaye de la destruction et du pillage par les protestants, au début des guerres de religion, qu'est-ce qu'il fait Brantôme? Il fait un repas.
C'est ça, il a offert à dîner en fait aux soldats qui venaient détruire l'abbaye et les soldats sont repartis repus et pacifiques.
Voilà, alors vous nous parlez aussi d'un autre potager, hein, du potager et du grand verger installé aux Journées des Tuileries, donc cette fois on est à Paris, par Catherine de Médicis, sur les conseils d'un écrivain. Les écrivains et les hommes et femmes de pouvoir sont vraiment très proches, hein, d'un bout à l'autre du livre. Cet écrivain qui a donc conseillé à Catherine de Médicis d'installer un potager aux Tuileries, c'est Bernard Palissy, artisan, céramiste, qui a joué un grand rôle aussi dans la connaissance du cycle de l'eau.
Tout à fait. Bernard Palissy était un scientifique et écrivain, puisque le XVIe siècle a vu naître de nombreux hommes et femmes de lettres qui étaient également des hommes et femmes de science. Et donc Bernard Palissy est devenu, par ses conférences, un spécialiste. En fait, c'est l'inventeur un petit peu de l'agriculture moderne. Et parce que il conseillait justement de planter certaines espèces en fonction des saisons, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et il est devenu conseiller de Catherine de Médicis. Il a notamment créé de nombreuses pièces de vaisselle. Il cherchait désespérément toujours à s'améliorer. Il y a une scène célèbre qui a été illustrée par des peintres dans le monde entier où on le voit brûler ses meubles pour arriver à une température de cuisson suffisante pour certaines pièces de céramique.
Vous n'avez jamais fait ça, Gustave. Vous n'avez pas encore brûlé vos meubles.
Écoutez, j'espère que la pénurie d'énergie ne va pas nous obliger à brûler les tables pour
Bon, en tout cas, mais c'est intéressant parce qu'on voit jusqu'où peut nous mener notre passion, finalement, lorsqu'il s'agit de la pousser au bout. Alors, on parle beaucoup des légumes, là, depuis que je vous ai exposé mon menu, donc à cette soupe de topinambour à la truffe. Oui. D'ailleurs, au passage, je ne vous ai pas posé la question, mais vous êtes un vrai spécialiste des soupes.
J'aime les soupes.
Vous avez écrit énormément de choses. Quels sont les secrets d'une bonne soupe? Là, nos auditeurs qui ont peut-être envie d'en faire une.
Le secret d'une bonne soupe, vous souvenez de l'injonction mange ta soupe, mais je crois que le secret d'une bonne soupe, c'est l'amour, en fait. C'est pour ça que les mamans doivent faire des soupes merveilleuses, parce que, avec peu d'ingrédients, en fait, la soupe est le plat par excellence, et avec peu d'ingrédients, on peut donner des sensations, enfin, après, avec l'assaisonnement, avec l'ajout d'herbes, avec justement, chez Herscher, l'année dernière, avec toujours Alexis Voisnet, on avait fait 4 ouvrages qui correspondaient aux 4 saisons pour les soupes de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Et c'est vrai que c'était des idées. C'était, 25 recettes de soupe, mais aussi que ces recettes donnent l'envie aux cuisinières, aux cuisiniers amateurs de faire leurs propres recettes en prenant conscience en fait que c'est très facile de faire une soupe. C'est des ingrédients qu'on trouve facilement, et puis qui se préparent facilement et autre atout très important de la soupe, c'est que lorsque vous passez à table, la soupe, elle est prête. Donc, vous n'avez pas besoin de vous lever pour préparer les plats. La soupe est prête, vous la mettez dans la soupière, et vous posez la soupière au milieu de la table, et vous restez avec votre famille, vos amis, et vous n'avez pas besoin de bouger.
Alors, la soupe, c'est léger. Il y a aussi des entrées un petit peu moins légères, quand même, dans le lit. Je pense, par exemple, à ce saucisson en brioche poêlé
de Louise Labbé.
De chou à la pistache de Louise Labbé, que ne renierait pas notre Lyonnais, ici, à VMDN, ouais. Baptiste Antoine, qui est de l'autre côté de la vitre. Bon, c'est un peu lourd,
Comment on fait pour qu'un plat comme ça
ne soit pas si lourd? C'est une entrée, je le rappelle, dans
Bien
le
sûr, mais j'ai pas pu. Oui, mais c'est l'entrée d'hiver. Allez, on rentre
oui,
dans.
Voilà.
Bon. Donc, mais j'ai pas pu résister avec Louise Labbé, de faire à saucisson. Je suis moi-même, j'ai grandi à 40 km de Lyon. Vous imaginez que le saucisson en brioche, j'en ai mangé très souvent le dimanche.
Oui.
Alors là, on l'a agrémenté avec des choux qui sont juste un peu poêlés et avec des pistaches. Comme ça, on a mis des pistaches également dans le saucisson et également dans la garniture à côté. Donc, mais non, c'est pas. Bon, normalement, avec du saucisson, on peut manger du pain. Là, on a la brioche, donc on n'a même pas besoin de manger de pain. Le chou, c'est plutôt très, très léger. Les pistaches. Non, je crois que c'est une entrée tout à fait civilisée.
C'est la double sept. La double sept. Neuf cuisses de canard gras et 1 kg de sept. C'est ce qu'il nous faut pour commencer la recette. Un demi-verre d'armagnac et 2 bouteilles de rouge fort. Ça, c'est pour lui donner un peu plus de corps. De belles échalotes et 4 grosses carottes. Une branche de céleri et 1 bouquet garni. Du sel et du poivre, de la maïzena. Et surtout ne pas oublier de la graisse d'oie. Un demi-verre d'huile d'olive et de la farine. Un oignon piqué de clou de girofle pour les vitamines. Ces grosses pommes de terre que rajoute ma grand-mère. Nous avons les ingrédients pour préparer la tambourine.
Là, L'adobo cèpe de Funky Stelbras sur RFI. Alors, je ne sais pas si Guy Savoie valide complètement la recette. Ce que je sais, en revanche, c'est que dans le livre, il y a une daube parmi vos recettes. Une daube de taureau en cocotte au lard et au romarin. Alors, zeste d'orange, s'il vous plaît. Ouais. Bon, il faut prendre un peu de l'avance, hein, parce que c'est...
Il faut le laisser reposer. Il faut acheter le livre, vous verrez, parce qu'il faut laisser... Oui, c'est une recette qui demande beaucoup de... Enfin, qui n'est pas compliquée, mais qui est longue dans le temps. Déjà, il faut trouver du taureau.
Oui.
Et puis ensuite, tout l'adapter comme une daube, comme on fait en Provence. Et c'est un plat, je dirais, roboratif. Là aussi, on est encore dans l'hiver. On peut dire que c'est des plats d'hiver.
Donc on approche petit à petit, même si on s'en rend pas vraiment compte quand on met le nez dehors dans Paris en ce moment. Et ce plat-là, vous l'évoquiez tout à l'heure, Anne Martinetti, vous l'associez à Philippe de Comines, qui était donc secrétaire particulier et ministre aussi du roi Louis XI. Alors à l'époque, la France avait pas mal de démêlés, et le mot est faible, avec l'ennemi héréditaire, autrement dit l'anglais. Et dans ce cadre, Philippe de Comines, il a organisé là aussi plusieurs banquets très politiques, très diplomatiques. En fait, c'est un petit peu ce que vous disiez déjà tout à l'heure, quoi. La cuisine a toujours été, et elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, associée aux politiques et à la diplomatie.
Bien sûr, puisque on prend de meilleures décisions en se régalant. Ça c'est une tradition et pas seulement française. Et la recette, elle est aussi issue de ces nombreuses campagnes en Espagne et de toutes les missions diplomatiques qu'il faisait pour le roi Louis XI. Et il a eu une carrière diplomatique extrêmement importante. Et ensuite, les rois se sont servis de ses mémoires en guise de conseil finalement pour gouverner.
Et au XIXe siècle, Talleyrand, on connaît la phrase, hein, disait à Napoléon, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. Marc-Antoine Carême, hein, cuisinier de Talleyrand, qui compte encore aujourd'hui.
Absolument.
Dans la gastronomie et dans la cuisine française. Guy Savoie, vous-même, vous avez été un petit peu le Carême de François Hollande et de Barack Obama, quoi. Guy Savoie.
C'est vrai qu'on est, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de les recevoir tous les deux. C'était lors de la commémoration du débarquement.
Débarquement. C'était en 2014, à Paris, 2014, au Tiberta, votre restaurant des Champs-Élysées.
Absolument. Et là, c'est vrai qu'on avait fait un menu. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, parce que l'entourage, en fait, du président américain avait décidé que le dîner soit rapide, et ils avaient supprimé le fromage.
Oh.
Et lorsque le président Obama a vu qu'on lui apportait des couverts à dessert, il a dit, mais nous sommes en France, je veux du fromage. Donc c'était, vous voyez comme quoi la réputation de la France et de tous ces paramètres de gastronomie, le fromage en est forcément un. Donc il y a eu un moment de panique, parce qu'on n'avait pas vraiment des fromages qui étaient à température, ils étaient conservés au frais. Donc il a fallu qu'on se débrouille très vite à les rendre tempérés pour qu'ils puissent être dégustés dans les meilleures conditions.
Pourquoi est-ce que pour Barack Obama et François Hollande, vous avez choisi un menu marin? Parce que
l'avez recopié la plage de Normandie, tout simplement. Donc je voulais qu'il y ait des produits de l'océan.
Salade de homard bleu, barre de ligne de Normandie, galette de pommes de terre Anna et en dessert terrine d'orange et de pamplemousse. C'était le menu pour Barack Obama et François Hollande, signé Guy Savoie. Alors beaucoup moins léger évidemment que les repas rablaisiens, pour le coup, Martinetti. Là on est évidemment dans la grande tradition gargantuesque pentagruélique française,
hein,
c'est impressionnant, hein. Langue de bœuf,
termes qui sont restés.
Palette de porc persillée aux herbes, rable de lièvre rôti, c'est Agrippa de Vigné, hein, en l'occurrence, qui était un peu pour le développement durable.
Durable. De lièvre.
Et Agrippa de Vigné qui a beaucoup fait pour la Vendée et pour le développement de l'agriculture en Vendée, parce qu'il avait charge de territoire. Et donc, c'est un petit peu aussi le point commun de tous nos écrivains, c'est que ce sont des personnes, ce sont des hommes et des femmes d'action. Donc, ils ont beaucoup œuvré, on parlait de fromage il y a quelques minutes. Jacques Amyot, par exemple, originaire de Melun, a beaucoup œuvré pour que les fromages de Seine-et-Marne soient reconnus et soient connus par la cour à Paris, ce qu'ils n'étaient pas à l'époque, donc le Coulommiers notamment et les différentes sortes de brie. Exactement. Et puis également, il a fait en sorte que l'on cultive des lentilles dans la brie, qui sont aujourd'hui toujours cultivées 4 siècles plus tard. Donc, en ce qui concerne Rabelais, ce qui est amusant, c'est que Rabelais était médecin et à ce titre, il était extrêmement pointilleux sur son alimentation. Mais lorsqu'il a écrit Gargantua, Pantagruel et d'autres œuvres. C'était vraiment des œuvres de divertissement pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'il a donné libre cours à son imagination gourmande.
Parce que bon, les médecins d'aujourd'hui et les véganes d'aujourd'hui, quand ils lisent les recettes que vous associez à Rabelais, ils vont hurler quand même.
Non. Je crois que les médecins qui sont en principe des bons vivants, ils prônent pas forcément la diététique, la diète plutôt.
Oui.
La diététique,
ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
La diététique, on le fait naturellement. Un jour, un médecin m'a dit, vous, les cuisiniers, vous faites de la diététique intuitivement. Ben voilà, oui, parce qu'on fait attention aux cuissons, on fait attention de ne pas utiliser trop de gras, on ne travaille que des produits d'une extrême fraîcheur. Vous parliez tout à l'heure d'authenticité. Moi, au-delà de toutes les classifications, la seule que je défends vraiment, c'est l'authenticité, bien avant le bio, bien avant tout un tas de choses, quoi. Donc, je pense que quand les produits ont poussé ou ont été élevés par des gens qui font encore leur métier comme le faisaient leurs parents ou leurs grands-parents, on est sûr d'avoir des produits authentiques.
Mais qu'est-ce que vous répondez, Guy Savoy, à ceux, ils sont de plus en plus nombreux en France en ce moment, qui disent qu'il faut réduire, voire complètement arrêter notre consommation de viande, et singulièrement de viande rouge?
Ben, on le disait déjà au XVIe, hein, c'était une question de tarif, hein, je crois, déjà à l'époque. Non, alors réduire, bon, peut-être qu'il faut, tenir compte de cette... je dirais de cet appel, mais bon, moi, on m'a toujours...
C'est
appris.
Pour la santé et pour l'environnement.
On m'a toujours... Oui, mais là, je fais juste une petite parenthèse, c'est que le cheptel de bovins en France, qui était tourné autour de 22 millions de bêtes, est passé à 17 millions. Donc, j'allais dire, heureusement qu'on consomme moins de viande, parce qu'on aurait été, on serait en pénurie de viande. Mais je crois qu'aujourd'hui, non, je crois qu'on est... On est plus dans la mesure, mais les cuisiniers montrent bien la voie pour ça, parce que souvent, on critique un peu des assiettes qui sont pas trop garnies et tout. Mais il faut bien penser que un repas, c'est un menu complet et que moi, je suis malheureux si je vois revenir une assiette avec encore des choses dedans. Je suis malheureux plus d'un titre. Je me dis, ont-ils aimé? Ou alors, et puis c'est du travail qu'on jette. Hein, c'est non seulement le travail du cuisinier, mais tout le travail que j'appelle les artisans de la terre et de la mer qui produisent, qui élèvent et qui nous fournissent tous ces produits. C'est pour ça que donc on doit être aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus grande conscience de la mesure. Je crois qu'il y a une mesure à adopter et c'est pas la peine de se gaver.
Bon, et puis à la fin du repas, évidemment, il y a le dessert. On en parle dans
un
instant.
Il y a les desserts.
Merci la rose, l'un des plus célèbres poèmes de Ronsard, ici mis en musique par les grandes gueules. Alors vous préférez sans doute les fines gueules, vous peut-être, Guy Savoy.
C'est pas très joyeux pour un dessert.
Ouais, il était fine gueule justement, Ronsard, Anne Martinetti, parce qu'on le connaît plus pour ses poèmes célébrant l'amour, hein, Cassandre, Marie et Hélène, que pour son amour de la gastronomie.
Alors il était non seulement, comme vous disiez, fine gueule, mais il avait également un potager extrêmement bien fourni. Occitanie et il a également cultivé des melons qui étaient une première dans la région, dans sa région de Touraine et il en a offert au roi François Ier. C'est des melons qu'il appelait des pompons.
Ouais. Des, voilà. Achète,
donc la
achète des abricots,
ça,
des pompons, des artichauts,
c'est ça.
Des fraises et de la crème.
Voilà, et là,
c'est en été ce que j'aime.
Oh, voilà, Guy Savoie poète, et Guy Savoie cuisinier aussi,
grâce,
la recette.
Mais grâce à Anne Martinetti, alors j'encourage tous les jeunes.
Viens dans le micro, Guy Savoie, s'il vous plaît.
J'encourage tous les jeunes qui nous écoutent, moi qui étais un peu, qui regardais la littérature comme quelque chose réservé aux vieux, oh. je me suis aperçu que grâce à Anne, je veux dire, aujourd'hui, j'attends d'ailleurs de travailler sur le XVIIe siècle, parce qu'avec ce XVIe, je me suis régalé. Voilà, je me suis régalé, bien sûr, à faire les recettes, mais je me suis régalé des textes qu'elle a choisis, des textes qu'elle est allée chercher. Je me dis, mais pourquoi à l'école, on m'a pas appris la littérature sous cet angle-là?
Bon, mignonne, alors voici la rose. Moi, je l'ai appris à l'école, quand même.
Moi aussi.
Ça, vous avez pas eu chance. Bon, voilà. Alors, le texte. Alors, le dessert qui accompagne.
C'est un fraisier, bien sûr.
Forcément, un fraisier. Ah ben, un fraisier à la rose, évidemment.
Un fraisier à la rose, bien sûr. Donc, il a fallu le mettre, c'est un vrai fraisier dans lequel on a rajouté, bon, justement, ce parfum de rose pour qu'on célèbre Ronsard sur son poème le plus célèbre.
Voilà, donc
moi j'aime beaucoup celui-là de achète les abricots. Je vais vous le refaire trois fois.
Oui, bon, j'aime beaucoup les abricots en plus. Donc ouais. Ça me dérange pas du tout. Bon, donc en tout cas le fraisier, il a base de fraises, ça étonne personne.
Ah ben, bien sûr.
De roses évidemment, mais aussi de biscuits à la cuillère. Et je voulais vous lancer sur les biscuits à la cuillère parce que parmi les biscuits à la cuillère, il y a les langues de chat. Et je crois que les langues de chat ont joué un rôle majeur, peut-être même décisif dans votre destin de cuisinier, Guy Savoie.
Absolument, ça se passait un jeudi. À l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi. La météo était très mauvaise et donc ma maman me suggère de faire des langues de chat avec elle. Donc c'est vrai que je me régalais toujours avec les langues de chat. Je m'étais jamais vraiment inquiété de savoir comment c'était fabriqué. Et là, je l'ai vu mélanger du sel. Du sel pour un gâteau sucré, déjà, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ça étonne.
Du sucre, du beurre, un peu de farine, un peu de blanc d'œuf, elle mélange tout ça. Tous ces ingrédients pris séparément n'ont aucun intérêt. Je me souviens sur une plaque qu'elle avait beurrée, elle détaille des petits boudins avec une poche à douille, elle met cette plaque au four et me charge de surveiller. À l'époque, les fours n'ont pas de vitres, donc je suis très impatient, j'ouvre très, très souvent le four et je vois la transformation, mais magique en quelques secondes. C'est-à-dire, ces boudins se sont aplatis, ont commencé à prendre de la couleur sur le, ça sentait bon dans la cuisine. Donc, à un moment, je l'alerte, je lui dis, écoute, il me semble que c'est cuit. Elle vient sortir cette plaque et qu'une spatule décolle tout ça sur la table de la cuisine. Ça sentait bon. Quelques minutes après, c'était croustillant. Je me dis, mais c'est magique. Et c'est cette magie-là qui me touche au quotidien. Mais deux fois par jour, à chaque table et pour chaque convive, cette transformation magique, c'est extraordinaire.
Alors, Guy Savoie.
En plus, vous l'ingérez derrière, vous le dégustez. Donc c'est...
Alors, après la cuisine, votre seconde passion, c'est le rugby. Guy Savoie.
Oui.
Alors, un chef. Alors, je crois que vous n'avez pas le mot chef. Donc,
bon. C'est pour moi. Enfin, bon, allez.
Voilà. Bon, voilà. On va dire
c'est
chef.
La tradition.
Voilà.
C'est la tradition.
Okay. Alors, un chef, c'est quoi pour vous en parlant de rugby? C'est un sélectionneur? C'est un entraîneur? C'est un manager ou c'est un capitaine?
Alors, mais c'est un peu tout ça. Je veux dire, moi, je gère un peu le restaurant comme si c'était un club de rugby. Au rugby, j'ai appris qu'en équipe, on était plus fort, mais ça, tout le monde le sait. Après, j'ai appris que chaque personnalité, chaque physique, avait un poste. Et ça, c'est important. Et que c'est avec des gens très différents qu'on fait une équipe homogène et cohérente. Et ça, je le mets en pratique, moi, tous les jours. Au rugby, vous apprenez aussi que vous pouvez prendre un monstrueux plaquage et marquer un essai 2 minutes après. Quoi. Des morceaux de vie pendant 80 minutes. Les bons moments, les mauvais moments. Là, vous apprenez tout ça, ce qui vous permet de relativiser. Toi. En cours ou deux. Alors, pour répondre à la question, moi, je suis à la fois le président du club, le capitaine... L'entraîneur.
Le sélectionneur aussi, quand même.
Le sélectionneur.
Oh, oui,
le sélectionneur. Le sélectionneur, capitaine, entraîneur. Et j'ai rajouté entraînant pendant le confinement parce que il a fallu maintenir tout le monde en état d'excitation en attendant la réouverture. Donc, je tiens aussi beaucoup à ce mot entraînant. Voilà. Et puis, je répète après que chaque table est une action de jeu. Que voilà, donc ce parallèle avec le sport est en permanence. Malheureusement, je suis parfois obligé de faire l'arbitre. Je dis bien malheureusement.
Bon, et puis vous êtes entré dans la mêlée. Alors pour continuer dans la métaphore rugbystique, justement à l'occasion de la pandémie, à l'occasion du confinement, c'est vrai que ce livre, le geste et la manière, c'est aussi une sorte de journal de la pandémie. Vous étiez un confiné en colère. Alors vous avez quand même salué le quoi qu'il en coûte.
Oui, hein, bien sûr.
Mais pas à n'importe quel prix.
Pas à n'importe quel prix. Et puis c'est vrai que en tout cas les premières pages de ce livre, c'est un peu pour
enlever ces derniers relents de confinement que j'ai en effet très très mal vécu parce que je trouvais ça trop injuste, bien évidemment trop long, alors qu'on n'avait pas d'échéance. Alors c'était terrible, en plus, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une vraie souffrance, associée à toutes les souffrances. J'oublie pas toutes les souffrances hein, liées à cette maladie et tout ce qui a, toutes les douleurs et toutes les familles qui ont été touchées. Et bien sûr que je compatis, mais on a tous eu à notre niveau également nos souffrances.
Alors il y a aussi l'actualité qui nous rattrape. Guy Savoy, je voudrais vous entendre quelques secondes là-dessus. Il se trouve que la restauration fait partie de ces fameux secteurs en tension, hein, concernés par ce nouveau titre de séjour que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin et son collègue du Travail Olivier Dussopt veulent mettre en place. Est-ce que c'est une décision que vous saluez? Est-ce que ça permettrait pas de clarifier un petit peu les choses, voire d'assainir certaines pratiques du secteur de la restauration?
Bien sûr. Moi, n'importe comment chez nous, il y a en permanence 15 nationalités différentes. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec tout ça. Et comment vous dire, bien sûr qu'on est en tension, mais toutes les professions sont en tension, mais notre tension à nous, elle est amplifiée. Je vais vous dire, le terrain de jeu, pour refaire encore un parallèle avec le sport, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel et tous nos collaborateurs de la restauration, c'est la planète entière. Si vous rapatriez tous les Français qui travaillent à l'étranger, on aura ce qu'il faut comme collaborateurs. Parce que ça aussi, on n'en tient pas assez compte qu'on est des grands formateurs hein, dans tous les restaurants, toutes les écoles, et toutes les écoles en France sont magnifiques et sont très performantes. Ce qui fait que l'image qu'ont les collaborateurs de la restauration de l'hôtellerie est tellement bonne, eh bien, qu'ils sont tentés d'aller voir ailleurs.
Merci beaucoup Guy Savoy, merci à vous. Merci. Anne Martinetti. Alors après s'être régalé les papilles, on va essayer, vous qui nous écoutez, de vous ravir les oreilles. Marjorie Bertin, bonjour.
Bonjour.
Vous nous rejoignez pour nous parler musique classique, figurez-vous. Vous étiez hier soir à la Philharmonie de Paris pour une première mondiale, la création de la version pour piano, percussion, soprano et basse de la 14e symphonie du compositeur russe Dmitri Chostakovitch, à la sauce, si je puis dire, du pianiste Nicolas Stavy.
Oui, cette transposition, cette transcription de Chostakovitch, une réduction, comme on dit parfois en musique classique pour le piano et comme on dit en cuisine pour les sauces, n'avait jamais été créée. Alors, le studio de la Philharmonie de Paris était complet, l'attente fiévreuse. Chostakovitch, c'est très russe, c'est souvent mélancolique. C'est ce qu'espérait bien entendre ce spectateur.
Eh bien, écoutez, mademoiselle, je suis à ce concert parce que j'adore Chostakovitch. Il y a des gens qui disent que c'est une musique triste et qui rend triste. Alors, c'est peut-être parce que j'aime qu'on me rende triste, mais être triste à ce niveau-là, c'est du 4 étoiles, vous comprenez, alors il faut pas le rater. J'adore le piano, il y a de l'air entre les notes, c'est comme si on voyait les arbres l'hiver, vous voyez. Et j'adore la musique symphonie de Chostakovitch, c'est comme si on voyait les mêmes arbres, mais l'été, il y a plein de feuilles, donc on voit pas au travers. Et puis j'aime bien aussi les quatuors, c'est comme si c'était l'automne. Et alors ça, c'est du Chostakovitch tout pur, vous voyez.
Alors l'automne, évidemment. Est-ce que symphonique rime avec mélancolique dans cette œuvre, Marjorie?
Plutôt. Bon, il faut dire aussi que Chostakovitch, quand il compose cette version en 1969, il est très malade, il est très fatigué, il est presque mourant, il décédera quelques années plus tard. Il veut alors, dit-il, voir la mort en face. Alors là, on vient d'entendre la basse interprétée par le fabuleux géorgien Sulkan Jayani. J'ai demandé à Nicolas Stavy, donc qui nous révèle cette partition, pourquoi est-ce qu'elle est restée si longtemps inconnue dans le fond?
Je pense à l'origine parce que ces grandes œuvres pour orchestre avaient été réduites au piano pour des questions de travail pour les chanteurs, mais aussi pour des questions d'autorisation étatique sous le régime communiste, où toutes les œuvres pour orchestre devaient être jouées devant une sorte de jury qui validait ou non l'autorisation d'ensuite être jouée. Donc toutes ces œuvres ont une version pour piano, mais qui est souvent une réduction. Et cette œuvre est bien plus qu'une réduction, c'est une transcription. L'écriture est vraiment repensée pour une formation différente.
Alors, compositeur phare du XXe siècle, Chostakovitch a vécu toute sa vie sous le régime soviétique qu'il exécrait. La symphonie est constituée de 11 poèmes de 4 auteurs différents, Garcia Lorca, Apollinaire, Kuchelbecker et Rilke, chacun formant l'un des 11 mouvements. Dans celui-ci, Chostakovitch dresse un portrait grotesque de Staline en utilisant des vers d'Apollinaire pleins d'outrage et d'obscénité.
Самых мерзких грехов ты погряз нечистотами в корне, и с детства знай свой шабас ты справишь без нас.
Alors Nicolas Stavy a été très applaudi hier, il faut dire qu'il a une excellente technique et surtout il est totalement habité par ce compositeur qu'il joue, me disait-il, depuis l'enfance. Alors ce pianiste Nicolas Stavy, il a un jeu à la fois très expressif avec de grands mouvements, on voyait les traits de son visage qui étaient parfois bouleversés par ce qu'il interprétait, et aussi, vous l'entendez, c'est vraiment très percussif. Alors je lui ai naturellement demandé si cette façon si percussive d'interpréter le piano est aussi très russe.
Oui, c'est très profondément russe, parce que il y a à la fois l'immensité, la puissance et les couleurs, donc les contrastes à la fois sur le plan dynamique, avec des instruments à percussion très très doux, au piano aussi d'ailleurs, et c'est ce qui fait, là encore je pense, ce qui a conduit Chostakovitch à réaliser cette version, c'est le mélange des deux avec les voix. Alors en effet, le traitement du piano a un côté très percussif, aussi de grande résonance, et c'est finalement justement dans cette symphonie qu'il y a beaucoup cette écriture-là, de ces grands contraste à la fois dynamique et sonore.
Alors un autre contraste, c'est celui qui est opéré par la soprano, la merveilleuse Ekaterina Bakanova, une cantatrice russo-ukrainienne qui chante souvent des opéras véristes. En longue robe noire, elle a livré une performance qui était à la fois intime et très troublante.
Et est-ce qu'elle s'inspire justement, Marjorie, de ses rôles véristes ?
Non, pas vraiment. En fait, elle puise surtout dans son expérience personnelle, de la douleur notamment, comme dans cet extrait du poème d'Apollinaire que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Le suicidé ». C'était donc un concert très intense et Ekaterina Bakanova m'a confié quelle a été sa première impression en découvrant cette partition.
Je suis émue par l'idée de solitude et d'abandon. Je trouvais la version de cette partition très, très particulière, c'est très intimiste. Pour moi, c'est comme ça.
Alors Nicolas Stavy a interprété aussi d'autres morceaux de Chostakovitch, notamment une transcription pour piano à quatre mains d'après la symphonie numéro 10 de Mahler, qu'il a joué avec Cédric Tibergien, les Bagatelles de Beethoven, une merveille, et encore Nostalgia, un morceau élégiaque qu'il a composé Chostakovitch quand il avait seulement 14 ans.
Et signalons que la 14e symphonie de Chostakovitch par Nicolas Stavy figurera sur son prochain album Chostakovitch Works on Wheels qui sortira le 13 janvier prochain. Merci beaucoup Marjorie. Dans un instant, le journal sur RFI. Demain, bande dessinée dans VMDN avec Jean-Pierre Gibras pour le dernier volume de sa saga Matteo chez Futuropolis. Et vous m'en direz des nouvelles.